Europe 1.
Europe 1. 16h-18h. L'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1. Quel bonheur de vous retrouver pour la première équipée sauvage au complet, en studio, depuis le confinement. Toute la bande est enfin réunie. C'est une immense émotion, même si nous respectons évidemment les distances de sécurité et que le masque est de rigueur dans la rédaction. Mais bon, c'est déjà bien de renouer un peu avec la vie normale. Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin.
Il faut mettre un anneau dans son vagin ?
Il faut mettre de l'eau dans son vin, excusez-la. Bonjour Eva Rock.
Oh Mathieu, bonjour. Bonjour à tous. N'importe quoi.
Vous savez qu'ils font des choses bien en audioprothésie, tout ça.
Ouais, c'est ça, bien sûr.
Eva, tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde et ce qu'on zappe à la télé sur les écrans ce soir. Mais d'abord, accueillons chaleureusement, mais hygiéniquement, à un mètre de distance, une artiste qui justement a eu chaud. Bonjour Olivia Ruiz.
Et bonjour, ravie d'être avec vous ce matin.
On est ravis de vous accueillir à nouveau. Vous venez nous présenter votre premier roman, La commode au tiroir de couleurs, qui fait déjà beaucoup parler car il est très réussi. On va en parler évidemment sur la longueur dans toute l'émission. Mais ma première question est un peu plus prosaïque. Comment allez-vous ? Puisque d'après ce qu'on a pu lire dans la presse, même dans la presse people que je lis énormément, vous auriez potentiellement contracté le coronavirus au début de l'épidémie.
Oui, je pense. J'ai passé 2 semaines complètement HS.
Avec les symptômes dont on parle.
Voilà, la totale. Oui, je suis allée regarder sur Internet. J'ai fait le petit test parce que je me disais, je vais mourir dans pas longtemps, c'est sûr. Et puis, les hôpitaux et les médecins étant hyper chargés, j'ai fait ça par mail avec mon médecin.
Qui vous a dit, c'est probablement
ça. Voilà, et qui m'a dit, pas de problème, tu fais attention à ton souffle et puis ça va aller. Et puis, ça a mis un peu de temps quand même à aller. Mais tout va bien maintenant.
Tout va bien maintenant. Oui. J'ai lu dans une interview que vous vous en vouliez un peu de ne pas avoir mesuré la dangerosité du virus dans les premiers temps. Vous dites, j'ai pris le métro 4 fois par jour la semaine précédant le confinement, ne sentant pas le danger venir. 4 fois le métro par jour, en effet, moi je suis un peu choqué par votre désinvolture, Olivia, je vous le dis. Parce que nous, dans l'équipée sauvage, on avait tout à fait pris conscience du danger. Le vendredi avant le confinement, on était en studio et en public avec Mel Rabédia. On a vraiment été irréprochables, on était très sérieux là, on n'a pas contribué à la diffusion du virus du tout.
Alors,
tout ça est, espérons-le, derrière nous, on touche du bois, dommage que la table du studio soit en plastique. On va parler de votre premier roman, La commode au tiroir de couleurs, mais d'abord Olivia, vous connaissez le rituel, je vous présente nos 2 premiers concurrents pour le titre de chroniqueur du jour. Le premier n'a pas encore eu la chance de lire votre roman, mais c'est un grand fan de votre musique. Quand je lui ai dit, aujourd'hui on reçoit Olivia Ruiz, il a déclaré...
Ça vaut pas la compagnie créole. Hein.
Ah bien sûr, mais c'est sympa quand même, c'est sympa quand même. Bonjour Axel de Tarlé.
C'est sûr ça.
Bonjour Mathieu.
C'est un montage. Alors d'évidence, Axel, vous n'êtes pas de expert musique, et c'est rassurant, votre domaine de compétence c'est l'économie. Et cet après-midi, vous nous parlez du grand retour de Keynes, qui d'ailleurs l'avait dit...
I'll be back.
Avec cette crise quasi sans précédent, même les patrons deviennent keynésiens en appelant en France comme à l'étranger d'ailleurs à des plans de relance massifs.
Oui, vous avez remarqué, tous les grands patrons demandent à ce que l'État soutienne l'économie, fasse des plans de relance massifs, fasse ce qu'on appelle de la dépense publique. Mmh. Alors pour faire chic, on peut parler d'un tournant keynésien et de façon plus triviale, on peut parler d'un tournant gauchiste des grands patrons.
Gauchiste ? Un tournant à gauche, pas forcément gauchiste, Axel, vous vous trahissez. De l'autre côté de notre ring journalistique, votre ennemi juré, Axel. Un chroniqueur
vrai,
qui, en cette fin de saison, dans cette dernière ligne droite vers le titre, a renoncé à ne serait-ce que faire semblant d'avoir une éthique journalistique. Plus le sujet est racoleur, plus il jette son dévolu dessus. Parfois, il réussit même à se procurer le 06 de l'invité en amont de l'émission afin de se le mettre dans la poche. J'espère qu'il ne vous a pas importuné, Olivia.
Toute la nuit, on s'envoyait des SMS, on jouait la séduction, on se titillait par messages.
Mais qu'est-ce que vous racontez ? Grossier personnage. Bonjour quand même, Alice.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Olivia, faut pas l'écouter.
Arrêtez-vous aussi, je vais bouger vos lèvres.
Alice, vous êtes notre spécialiste nouvelle technologie. Aujourd'hui, je vous ai charrié pour rien puisque vous nous proposez un sujet aussi passionnant qu'intrigant, on dirait presque un sujet du Gorafi, le boom, si j'ose dire, des armes vertes. Autrement dit, quand l'écologie et le respect de l'environnement s'invitent dans l'industrie de l'armement.
Ça fait rire Axel, mais c'est pas une blague.
Mais non, c'est pas une blague,
je vais vous expliquer
pourquoi, et surtout que justement le fait d'être éco-responsable, d'être basse consommation, d'être développement durable, c'est le nouvel argument des vendeurs d'armes, et ça marche.
On peut flinguer écolo.
Flinguer écolo, c'est pas mal ça. Merci Alice, le programme est donné, l'équipe est sauvage peut démarrer.
Europe 1, l'équipée sauvage.
C'est donc Olivia Ruiz qui nous accompagne cet après-midi, mais pas la chanteuse. la romancière. Il faut poser le personnage. Attention, là, vous êtes entré dans une autre catégorie. Coup de tonnerre dans le monde de l'édition avec ce premier roman qui est un peu tout l'inverse du roman de chanteur. Vous savez, quand le chanteur décide de publier un roman, c'est souvent...
Oui.
Là, c'est l'inverse. On est face à un grand roman. C'est le premier, mais c'est déjà un superbe roman. La commode au tiroir de couleurs édité chez Lattès sort aujourd'hui. On va revenir en détail sur l'histoire très émouvante abordée dans ce roman. Mais avant ça, je voulais vous dire... On est fiers de vous avoir parce que la critique est complètement unanime sur ce roman. Qu'est-ce que ça vous fait ? Bah, j'imagine que quand on publie un roman, on est déjà assez fiers, mais quand en plus la critique est à ce point dithyrambique...
On est plus fébrile que fiers quand même. Quand on est chanteur, on s'attend un peu au pire,
oui.
J'avoue, parce que justement, il y a un a priori, on a tous des a priori, c'est pas... Voilà. Et puis, belle surprise, mais enfin, voilà, bah, vous savez comment... Comme nous sommes sensibles, les artistes. Alors, même quand il y a plein de trucs bien, on est là, mon Dieu.
Ah, vous
quand,
voyez que la
quand
petite
le
phrase
truc pourri va arriver, qui va me faire pleurer une journée entière. Donc, pour l'instant, je suis ravie, effectivement.
J'avais pris une question que j'ai été obligée de barrer parce qu'en fait, j'ai réalisé en lisant les articles qu'elle était con. J'allais vous dire, quand on est chanteur, est-ce que c'est difficile
la question,
de
même,
c'est difficile
pas.
C'est difficile de publier un livre, un roman de comme ça qui complètement inspiré effectivement de votre vie, de votre famille, mais c'est un pur roman. Est-ce que c'est difficile à publier, est-ce que les auditeurs n'ont pas tendance à vous dire « raconte-nous plutôt les coulisses de la Star Academy ». En fait, c'est une question con parce que j'ai lu que plus de 10 éditeurs s'étaient battus pour publier ce livre.
Oui, et puis ce qui est rigolo, c'est que le livre a été envoyé sans mon accord.
C'est-à-dire ?
Par mon amie qui est devenue mon agente, Olivia de Dieu le veut. En fait, en gros, elle est tombée sur une nouvelle qui s'appelait La commode au tiroir de couleurs que j'avais faite avec elle à l'époque où elle travaillait chez Flammarion. Et je l'avais lâchée en plein vol pour partir en tournée en disant on reprendra ça un jour. Et quand elle l'a retrouvée, elle m'a dit mais là, il y a ton roman, je sais que tu as du temps, c'est le moment, vas-y. On est arrivé à 2 chapitres de la fin et elle me dit là, on envoie. Je lui dis je ne me sens pas du tout prête, je ne sais pas si j'ai envie de le.
Mais pourquoi ?
Parce que finalement.
Ah, c'est vraiment étonnant, parce que quand on lit ce roman, c'est tellement maîtrisé, on se dit que vous devez être fier, tout simplement.
Mais parce que c'est personnel,
comment
c'est ça.
Hésiter,
oui,
c'est
parce qu'on se dit que le costume est trop grand pour nous. C'est vrai que moi, il y a des romans que j'ai tellement aimés, qui m'ont tellement bouleversée que bah voilà, quelle légitimité je pouvais avoir. Et donc, la coquine.
Elle a envoyé
aux 10 éditeurs dont on rêvait un petit peu toutes les deux. Et elle s'est contentée de me mettre en copie des réponses.
Il fallait être poussé.
Oui.
La commode au tiroir de couleurs est son premier roman. Et vu le succès critique, certainement pas son dernier. Olivia Ruiz est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
Et si, après le Covid, les patrons devenaient tous de gauche ? Et si cet été, le patron du MEDEF dansait bras dessus avec Philippe Martinez sur la scène de la fête de l'UMA, pendant qu'un chœur d'éditorialistes économiques jadis de droite, enfin bref, des éditorialistes économiques quoi, chanterait «
Elle danse au bal masqué, elle n'a pas !»
Ce tableau surréaliste ne l'est peut-être pas autant qu'il y paraît. Axel de Tarlet vous explique pourquoi, à tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Olivia Ruiz est notre invitée arbitre cet après-midi. C'est elle qui, avec vous, désignera en fin d'émission le chroniqueur du jour, celui de nos journalistes qui aura proposé la chronique la plus intéressante. Et je suis sûr que celle qui suit peut vous plaire, Olivia. Il faut juste qu'Axel de Tarlet ait la force de la porter en entier. En effet, depuis son dauphin d'or du meilleur journaliste économique en 2003, Axel a tendance à se reposer sur ses lauriers et à se satisfaire très vite de son travail. Comme mercredi dernier, par exemple, il a failli s'arrêter dès le teasing, tellement il s'est trouvé bon.
La question est, comment passe-t-on du Capitole à la Roche Tarpéienne ?
Ouh là, d'emblée !
Là, je crois que j'ai déjà gagné, plus besoin de faire la chronique.
Axel,
et vous aviez perdu, je crois.
En plus, il avait perdu. Le teaser était bien, mais on a envie que vous développiez. En quoi les patrons vont-ils se gauchiser à l'issue de la crise du Covid?
Mais d'habitude, les patrons réclament toujours une baisse de la dépense publique parce qu'ils savent très bien que si on augmente la dépense publique, il va y avoir plus d'impôts et les impôts, ils n'aiment pas ça. Donc, là,
j'aime bien quand vous me faites l'économie pour les nuls. C'est très bien.
Et là, ils ont complètement changé de discours. Là, tous, y compris d'ailleurs la semaine dernière, on a interrogé des patrons étrangers sur pourquoi ils venaient en France. Ils disaient, on attend du gouvernement qu'il fasse un plan de relance massif. En fait, ils ont tous envie que l'État soutienne l'économie à coups de milliards. Et alors, chacun d'ailleurs va frapper à la porte de Bercy pour avoir son chèque. Donc, vous avez vu, l'automobile, ils ont eu un plan de relance de 8 milliards. Le tourisme a eu un plan de 18 milliards. Et puis, il y a eu, pendant le confinement, mieux que ça. Les salariés ont été payés par l'État avec le chômage partiel. Vous savez que pendant le confinement, on a calculé que 40% des adultes étaient payés par l'État. Donc, vous voyez, on est plus très loin de la soviétisation, pour utiliser des grands mots, de l'économie.
Attends, Axel, c'est bien gentil, mais il faut qu'il y ait une contrepartie. Par exemple, les plans de soutien à l'automobile, il faut qu'il y ait une relocalisation en France. On va pas, enfin, donner de l'argent, c'est très bien pour pousser, mais.
Oui, alors vous avez vu, elles sont pas terribles, elles sont pas très exigeantes, les contreparties.
C'est pas très contraignant.
Non. Ce qui se passe, c'est que les entreprises, quand tout va bien, elles disent mais écoutez, on va délocaliser, vous nous embêtez avec vos taxes et vos impôts.
Quand tout va bien, elles sont de droite, et quand tout va mal,
exactement,
elles sont de gauche.
Voilà. On dit pas qu'on est de gauche, on dit qu'on est keynésien. C'est-à-dire qu'il faut relancer l'économie en ne lésinant pas sur les déficits, etc. Et puis on remboursera plus tard quand ça ira mieux. Il y a une autre façon de résumer ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'on privatise les gains. Quand tout va bien, vous nous foutez la paix et on gagne tout notre argent avec le minimum d'impôts. Et quand tout va mal, on socialise les pertes. C'est-à-dire que là, on partage avec le bon peuple les pertes monstrueuses que nous sommes en train d'accumuler. Et c'est comme ça qu'on va avoir une dette qui va passer à 120% du PIB.
C'est bien, Axel. Vous tenez le bon bout. Je sens que vous virez.
Là,
vous virez
je vais virer conseiller économique de Philippe Martinez.
C'est très bien.
C'est pas terrible comme positionnement. Moi.
Alors.
Une fois qu'on a fait ce constat, c'est terminé.
C'était ma chute finale, pas la lutte, la chute finale.
On privatise
les gains et on socialise les pertes.
Très bien.
Et une question quand même, est-ce que pour les auditeurs, vous pouvez juste rappeler Keynes, qui c'était et quelle était sa théorie principale?
Et c'est pas un guignol comme vous le présentez, Keynes, c'est quand même un gros pont de l'économie.
C'est un économiste du début du XXe siècle.
Exactement.
Qui disait que quand l'économie est à plat, c'est le rôle de la puissance publique que de faire du déficit, de réinjecter de l'argent dans le secteur, ça va faire retourner l'entreprise. Du coup, les entreprises vont faire des bénéfices, elles vont payer des impôts et l'État va ainsi se rembourser.
Oui.
Et ça a été la grande théorie à la mode du XXe siècle, au point que Nixon, parce qu'il était plutôt gauchiste au début, mais Nixon, président de droite, a dit au début des années 70, nous sommes tous keynésiens. Donc pour dire que c'était très mainstream autrefois.
Exactement. Et il faut rappeler que le keynésianisme a fonctionné beaucoup
et ensuite,
plus que
est
beaucoup
arrivé
plus que le néolibéralisme.
À l'époque libéralisme Reagan
oui,
on a
qui a beaucoup moins bien marché.
Keynes s'est pris une balle dans la nuque pour citer Geoffroy Roux-de-Bézieux.
Exactement. Merci Axel de Darley, peut-être pour enfoncer le clou et prouver à Olivia que vous êtes vraiment devenu de gauche, un dernier mot anticapitaliste.
La chute de la bourse, j'en ai rien à cirer.
Oui, Axel.
Édith Cresson, 1991.
À suivre. On va se plonger dans le premier roman d'Olivia Ruiz qui nous accompagne cet après-midi. On la remercie d'avoir accepté notre invitation car la dernière fois qu'elle était venue, je n'avais pas encore bien intégré les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale. Alors, ok, c'était bien avant le Covid, mais en réécoutant l'émission et certaines de mes fines allusions, notamment à la manière dont on s'embrassait dans le showbiz, pas toujours sur la joue, je sens que ça l'avait choqué.
Alors, on va arriver au bisou sur la fesse, là. Vous êtes en train de m'amener ça discrètement, Mathieu.
Vous avez vu comme c'est finement
ça
amené.
Ça ne va pas passer. Non, ça ne va pas passer.
Le bisou sur la joue. On comprend que ça soit proscrit, les postillons.
Oui.
Mais le bisou sur la fesse, elle est peut-être pas la solution. On en parle juste après. American Boy, Estelle sur Europe 1. This is number one champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. This 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains in New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, American boy. Can we get away this weekend? Take me to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. I really want to come pick you with you.
quoi, Vlad? Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't with me. Estelle once said, tell me, cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now.
He said, would you be my lover? Could you be mine? Would you be my lover? Would you be mine? Could you be my lover? Would you be my American boy? American boy? Take me on a trip I'd like to go someday.
American Boy, c'était Estelle sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures de détox pour vos neurones et de renforcement musculaire pour vos zygomatiques, si tant est que les zygomatiques sont un muscle, on vérifiera. 2 heures également pour apprendre à mieux connaître une personnalité. Et alors là, je l'admets volontiers, c'est souvent là que le bas blesse et que ma technique de l'interview atteint ses limites, car cette spontanéité que vous aimez peut-être chez moi se retourne souvent contre moi lorsque j'interviewe une personnalité. Car le principe d'une interview, c'est que l'animateur amène l'invité à se dévoiler, pas qu'il se dévoile lui-même, s'il n'a aucun intérêt, comme on a encore pu le constater hier avec la romancière Tatiana Doronet. Tatiana Doronet, est-ce que vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes un peu hypochondriaque comme moi, vous fumez pas, vous m'avez l'air assez...
Vous n'avez pas parlé d'alcool, hein, tout d'un coup, hein ?
Oh, j'ai d'autres vices, mais ça se voit pas.
Ah, comme moi. Voilà, alors parlons un peu de moi, de vous, faut que je me mette un post-it là-dessus. On vous reçoit aujourd'hui, déjà parce qu'on vous aime beaucoup, mais aussi parce que vous publiez chez La Tesse un premier roman extrêmement réussi, ça s'appelle La Commode au tiroir de couleurs, c'est une véritable fresque familiale sur l'exil, très émouvante, je raconte en quelques mots l'histoire. À la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de l'intrigante Commode qui a nourri tous ses fantasmes de petite fille. Le temps d'une nuit, elle va ouvrir ses 10 tiroirs et dérouler le fil de la vie de Rita, sa grand-mère, dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de 4 générations de femmes libres entre l'Espagne et la France, de la dictature franquiste à nos jours. La question qu'on se pose fatalement, c'est quelle est la part autobiographique dans ce roman ?
Elle est assez mince, la part autobiographique, finalement. Alors, il y a des odeurs, bien sûr, des lieux. Là où se situe l'immeuble où arrivent les sœurs, ça, c'est un endroit où, effectivement, j'ai une grand-tante qui s'appelait Madrine, qui avait un immeuble, mais il n'y avait pas des... Enfin, voilà, c'est dans le même quartier, c'est tout ce que j'en ai gardé. Effectivement, ma grand-mère fait un flan aux œufs incroyable avec des petits trous que je n'arrive pas à refaire. Mais après, c'est justement, si j'ai ressenti la nécessité d'écrire sur ce sujet, c'est parce que j'ai passé toute ma vie à me buter au silence familial. Donc c'est vrai qu'il y a un moment où j'avais envie de m'enraciner et où je me suis dit, les femmes reines de la transmission que j'ai pas eues dans ma famille, même si j'ai eu des femmes extraordinaires...
Je vais les inventer.
Voilà.
Mais est-ce que ça veut dire aussi que vous espériez susciter des questions et des réponses au sein de votre famille en écrivant ce livre ?
Non, parce que ça, pour le coup, il y a tellement longtemps que j'en pose des questions, depuis à peu près mes 8 ans et j'en ai 40. Et donc ça, c'est un deuil que j'ai fait depuis longtemps. Mais ma mère qui a lu, après avoir lu, me dit « tu vois, je regrette de ne pas avoir posé de questions ».
Des questions à sa propre mère.
Voilà. Et à son père, puisqu'elles se sont ses deux parents.
Sur ses origines espagnoles, etc. Parce qu'on n'a pas expliqué tout le contexte.
Oui,
c'est ça,
voilà.
En fait,
trois de mes grands-parents ont immigré pendant la guerre de Franco. Je ne sais absolument rien, à part que ça s'est passé entre leurs 7 et 10 ans. Donc il y a quand même, voilà. Et puis le reste, je l'ai trouvé dans des témoignages de résistants, dans des documentaires et puis dans des romans aussi, parce qu'il y a plein de gens qui ont parlé merveilleusement de ce sujet, de Serge Peille à Lydie Salvert, en passant par Ovalde ou Carol Martinez, voilà.
Vous évoquez aussi dans ce livre l'accueil très dur réservé aux Espagnols exilés. Ça paraît très moderne quand on pense aujourd'hui à toute l'immigration du Maghreb, par exemple. On trouve des ponts très facilement entre cette immigration-là et la vague d'après.
Et puis les vagues de nos jours aussi.
Exactement. Ouais.
Ben, je crois que ça a ancré encore une fois la nécessité de dire. Je pense que j'aurais peut-être pas eu besoin de m'attarder sur ce chapitre-là, si je me rappelle très bien, et cette image ne m'a pas quittée depuis, de cet enfant échoué sur la plage, vous vous rappelez ? Et ce sont sur des plages que sont arrivés les Espagnols et que énormément sont morts de froid ou de faim. Donc le parallèle résonnait chez moi avec une violence, voilà, qui m'a laissé penser que quelque part, si j'écrivais tout le temps sur ce sujet, que ce soit dans mes disques ou avec la tragédie musicale Bolbert pour le Palais de Chaillot avec Jean-Claude Galota, c'est quand même qu'il y avait un petit truc que je ressentais profondément comme nécessaire de dire aujourd'hui, où ça devient un miroir de notre époque hyper violent, cette histoire-là.
Son premier roman est une vraie belle découverte chez Lattès. Il s'intitule « La commode au tiroir de couleurs ». Olivia Ruiz, reste avec nous.
Europe 1.
À suivre, depuis son enquête borderline sur ces chatbots qui vous permettent de vous entraîner à écrire des sextos, certains disent qu'Anissé Mbida, l'expert high-tech d'Europe 1, est devenu fou. C'est vrai qu'il y passe ses journées sur ce truc.
C'est horrible ce que tu es en train de dire, petit coquin.
Heureusement, dans les quelques moments de lucidité qu'il y reste, Anissé nous dégote encore quelques sujets passionnants. Aujourd'hui, cette question a priori surréaliste, et si le secteur de l'armement devenait à son tour éco-responsable. Demain, y aura-t-il des Kalachnikov label rouge, des mines bio ? Eh ben demain non, mais après-demain peut-être.
Quelle horreur !
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, Olivia Ruiz est avec nous. Ensemble, on parle de son premier roman, La Colmode au tiroir de couleurs, édité chez Lattès. Alors, tout simplement pour... Alors, on a parlé tout à l'heure des critiques du livre qui étaient déjà excellentes. Il faut dire que le livre est tiré à 80 000 exemplaires. 80 000 exemplaires, quand on tire
c'est
un
très,
livre,
très rare.
C'est que l'éditeur est sûr de son coût. C'est énorme, 80 000 exemplaires.
Mais j'ai une équipe en or.
Donc, dans ce livre, on découvre des secrets de famille. Et un des personnages, la mère dans le livre, qui dit à sa propre mère, « Maman, un secret, c'est fait pour être tu, c'est son essence même. Le révéler, c'est rompre son existence, le faire partir en fumée. Et là, la vengeance du secret peut devenir terrible. » Vous partagez cette analyse dans la vie ou pas ?
Pas du tout.
Et ouais.
Justement, moi, je passe mon temps à dire « Je vais l'assassiner, ce silence. Je vais l'assassiner, ce silence. » Et puis, bon, ben voilà. J'ai pas trouvé l'arme pour le crever. Mais en tout cas, clairement, je pense qu'au contraire, la libération de la parole sur tous les sujets, et notamment celui du secret de famille, et notamment sur celui de l'exil et de la quête identitaire qui va avec le déracinement, est absolument nécessaire. C'est pour ça que je lui ai fait dire.
Alors, Olivia Ruiz, lui, des secrets, il en a à la pelle. Son jardin secret, c'est plutôt la forêt de Chantilly. Souvent, à la machine à café, vous pouvez l'apercevoir penché sur une jeune stagiaire, lui murmurant
« Et si je te proposais un cours privé, tu voudrais que je te fasse quoi ?»
Toujours prêt à vous rembourser en mode sans échec, voici notre expert informatique et innovation, Anissé Mbida, deuxième concurrent du jour, avec un sujet vraiment intriguant, Anissé, aujourd'hui. Et si le secteur de l'armement commençait à se soucier, lui aussi, de l'environnement ?
Ben, vous avez la réponse, il commence déjà à ce souci. On va pouvoir flinguer bio, comme disait Axel Le Taré. On va pouvoir faire de la guerre verte. Vous savez, il y a la guerre noire, la guerre froide. Il y aura la guerre verte. Alors, vous savez, il y a calé sur les plaquettes publicitaires des différents vendeurs d'armes, des différents fabricants.
Une activité qu'on fait souvent dans notre temps libre.
Mais non, mais... Bien sûr.
Non, mais vous savez pourquoi moi ça m'intéresse beaucoup ? Parce qu'il y a un vendeur de missiles qui s'appelle MBDA.
Ah,
et ça fait Mbida.
Ah, bah oui.
À chaque fois que je le vois affiché, j'ai l'impression qu'il y a mon nom. Et quand on va chez MBDA, c'est un des plus grands fabricants de missiles au monde. Et quand on regarde, ils disent par exemple qu'ils sont en train de remplacer sur leurs missiles les systèmes de propulsion de leurs missiles aujourd'hui pour qu'ils soient moins consommateurs de CO2.
Ils passent à l'hybride.
Si vous voulez. Lockheed Martin, qui est peut-être le plus grand vendeur d'armes au monde, Lockheed Martin, ils travaillent sur un sous-marin solaire. Alors vous imaginez, hein, c'est devenu un argument de vente, leur sous-marin solaire, parce que quand
je suis pas ingénieur, mais un sous-marin solaire, il faut qu'il capte la lumière du soleil. S'il est sous l'eau, comment il peut capter la lumière?
Mais non, mais il se recharge, parce que vous savez, les sous-marins, ils ne restent pas tout le temps au fond de l'eau. Ils sortent un moment pour pouvoir se promener.
Ouais, mais il faut qu'ils soient à Tahiti, qu'il y ait du soleil, parce que s'ils sont en mer du Nord, par exemple. Enfin, moi, je ne trouve pas ça très très malin. Vous le direz à Lockheed Martin.
En tout cas, quand il faut acheter un sous-marin entre un sous-marin nucléaire ou un sous-marin solaire, on a vite fait son choix. General Dynamics, c'est l'inventeur du F-16, un avion de chasse très très connu. Ils ont lancé un nouveau blindé qui divise par 10 les émissions de CO2. Il y a plein d'exemples comme ça. Northrop Grumman, qui a réduit de 30% ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2010. Le ministère de la Défense britannique qui recycle les emballages de ses munitions. Il y a énormément d'exemples en ce moment. Et en fait, c'est devenu un argument de bande pour tous ces fabricants, tous ces vendeurs d'armes. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, en étant écolo, on vend beaucoup plus d'armes que si on n'était pas écolo.
C'est effarant.
Mais je ne pensais pas du tout que les arguments écolo pouvait agir sur les attitudes de consommation des acheteurs d'armes. Enfin, c'est ça qui paraît.
Mais si, c'est très simple. C'est simplement qu'aujourd'hui, la plupart des gouvernements ont voté la réduction de CO2, des émissions de CO2. Et aujourd'hui, il se trouve que l'armement, le matériel militaire, consomme et émet énormément de CO2. Je pourrais vous dire qu'un Charles Leclerc, par exemple, c'est 400 litres au 100. L'armée américaine, elle consomme, elle émet autant de CO2 qu'un pays comme la Suède. Donc obligatoirement, il y a plein de pays aujourd'hui, quand la Suède veut acheter un sous-marin, quand elle veut acheter un camion militaire, elle se pose la question, est-ce qu'il va me consommer énormément de CO2? Et donc tous ces constructeurs aujourd'hui, ils ont un argument, en arrivant avec des matériaux et du matériel, des blindés bas carbone, des sous-marins...
Des sous-marins solaires.
Ça permet de rassurer tous les gouvernements qui aujourd'hui se sont engagés dans une baisse de leurs émissions de CO2, parce qu'on oublie, hein, mais on parle beaucoup des émissions de CO2 de l'automobile, mais celles de l'armée sont bien, bien plus importantes.
Ben voilà, chercher un cadeau d'anniversaire pour Eva, des grenades bio.
Ah oui, c'est pas mal. Je préfère les grenades à manger, hein, pour tout vous dire.
Oui, je me doute bien. Merci Anissé Mbida. Axel, votre réaction par rapport à la chronique de votre rival?
Comme quoi, et c'est une leçon à méditer, l'arrogance ne mène à rien.
C'est envoyé. Son honnêteté intellectuelle est clairement ce qu'il a perdu. Avec un bilan dramatique de 165 défaites en 173 émissions, et alors que le quiz de Culture G reprend après 3 mois d'interruption, Eva Rock est dans une position où même sauver l'honneur est désormais impossible. Elle va devoir porter la croix de la loose jusqu'au bout, oui, même si je ne devrais pas m'avancer, mais peut-être qu'aujourd'hui, vu la thématique, vous avez une chance.
Ah bon?
Non, je déconne. À tout de suite pour le quiz.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Olivia Ruiz est notre invitée cet après-midi pour évoquer son tout premier roman, La commode au tiroir de couleurs chez Lattès, un roman assez imprégné de son histoire personnelle, de ses racines espagnoles, ce qui incite hélas certains dans l'équipe à se ridiculiser en s'inventant des points communs imaginaires avec Olivia afin qu'elle vote pour eux à la fin de l'émission.
Si yo hablo muy bien español, y voy a gagnar.
Oui, bien, avançons plutôt sur le livre. Si j'ai bien compris, Ruiz, c'est le nom de votre grand-mère. Votre papa, c'est Blanc, le nom de famille. Quand vous avez, au moment de vous lancer votre carrière d'artiste, vous avez fait ce choix.
Bah oui, comme 3 de mes grands-parents sont espagnols, ça me semblait une évidence de porter un de leurs noms. Je me sens vraiment quand même latine jusqu'au fond du sang depuis toujours. Et j'étais très proche de mes grands-mères. Enfin, je suis toujours très proche de l'une d'entre elles, qui est toujours en vie, Rita. Donc c'était logique que je leur rende hommage.
Alors, il y a cet objet, cette commode qui parcourt votre roman. Est-ce que vous en avez une de commode réellement chez vous?
Non, mais par contre, je l'ai faite fabriquer là, depuis il y a 2 semaines. Je vous montrerai la photo, elle est très jolie. Par des amis, une copine qui fait des meubles en carton et son amoureux qui est peintre. Et il en fait tel que je l'avais imaginé, un peu plus petite. Voilà, pour qu'elle soit juste facile à transporter. Mais forcément, une fois que j'ai terminé ce livre, j'avais qu'une envie, c'était me dire, maintenant que je la ramène avec ma commode, j'ai offert mon livre avec une dédicace qui disait à ma grand-mère, j'aimerais vraiment que tu me remplisses une commode. Bon, elle m'a dit qu'elle avait lu le livre, mais pas la dédicace. Donc voilà, il y a un âge où il ne faut pas trop poser de questions, ni lancer d'invitations. Elle est très, très, très âgée. Donc voilà, elle existe et je vais la remplir bien sûr pour mon fils avec le livre dans le premier tiroir, parce que c'est pas tout de la ramener en disant j'aurais rêvé qu'on me remplisse une commode. Ben voilà, je l'ai pas eu, je vais la remplir moi.
Des renfermes mémoires, le nom des tiroirs que vous donnez dans le roman, c'est très joli. Vraiment.
Face à vous, Olivia, elle vient de prendre la parole, une femme courage.
Oui, c'est ça, ça c'est clair. Oui.
3 mois qu'elle rêve de prendre sa revanche contre tous les invités qui l'ont battue dans l'épreuve du quiz de Culture G. Bon, comme ils sont 165 à l'avoir battue et avec les règles de distanciation sociale désormais en vigueur, ça va pas être possible de tous les réinviter, mais symboliquement, elle rêve de prendre sa revanche. Eva, êtes-vous prête?
Oui.
Ça tombe bien, le quiz aussi. Olivia Ruiz, en référence directe à votre excellent roman La commode tiroir de couleurs, qui se déroule sur fond d'exil franco-espagnol.
J'ai cru qu'on allait faire Ikea, un quiz Ikea, tu sais, avec le nom des meubles.
Non, là, c'est un quiz espagnol.
Ah bon, voilà.
Tout simplement. Et oui, c'est parti. Eva, c'est vous qui ouvrez le bal.
Oh là là.
Avant chaque match, Rafael Nadal prend une douche froide. Vrai ou faux?
Il fait ce qu'il veut, ce pauvre garçon.
C'est pas la question. La question, c'est prend-il, oui ou non, une douche froide?
avant ou après avoir retiré le petit short
Voilà. Allez, on va dire oui.
On dit oui ?
Oui.
Bonne réponse, Eva. C'est une façon pour lui d'entrer en concentration. Vous devriez faire pareil, Eva, surtout quand on reçoit Shuriken du groupe IAM.
Ah oui.
Ça vous permettrait de poursuivre l'émission plus sereinement.
Ah ouais,
hein.
C'est vrai.
Bon. Olivia Ruiz. Le célèbre agriculteur à moustache José Bové se nomme en réalité Jorge José Luis Bovida. Vrai ou faux?
Non.
J'espère pour lui que c'est faux.
Les questions ne sont pas très difficiles. Faux, effectivement. Dis donc.
Attends, ça nous fait rire. C'est complètement idiot.
Le père de José Bové avait des origines luxembourgeoises. On effectivement,
d'accord.
Du compte.
Ah oui.
Par
oui.
contre, sachez que les parents de Jean Reno étaient espagnols d'Andalousie. Le vrai nom de Jean Reno est Juan Moreno y Herrera Jiménez.
Ah oui, d'accord, mais ça n'a aucun rapport.
Et voilà, ça aurait été plus long dans Godzilla sur l'affiche. Ouais. Eva Rock, en Espagne, il y a un musée, Saleros et Pimenteros, je ne sais pas comment on dit, consacré aux salières et aux poivriers. Un musée de la boca, consacré à la bouche, et un musée orinal, je ne sais pas comment on dit, consacré aux pots de chambre. Lequel de ces musées que je viens de citer n'existe pas?
Alors, vous avez dit poivrière, salière, les pots de chambre et celui du milieu, c'était quoi? De la bouche. Celui de la bouche, il n'existe pas.
Celui de la bouche n'existe pas. Donc, ouais. Il y aurait, selon vous, dans un monde,
oui.
C'est quand même notre monde. Dans le,
oui.
Cas,
bah, le monde d'avant, hein, voilà, qui sera aussi
logique,
le monde d'après.
Ça, ouais. Il y aurait des types, ouais, qui construit un musée
des pots de chambre.
Ah bah oui.
Vous avancez d'une salle à l'autre.
Ah bah, je peux vous en raconter un autre musée en Angleterre qui est pire que le pot de chambre. Hein, donc, oui, qui est sur l'intérieur de ce qu'on peut trouver dans un pot de chambre. Donc, je peux imaginer qu'il y a un pot de chambre.
Oh là là, j'ai tout fait pour essayer de la faire perdre, mais vous avez gagné, Eva. Bonne réponse. Le musée de la Boca n'existe pas en Catalogne. On peut voir un musée avec 20 000 salières et poivriers. À Salamanque, on peut admirer 1300 pots de chambre de 27 pays différents.
Voilà.
Sans leur contenu, c'est important de le préciser. Ah. Olivia Ruiz, un couple à Bermeo, près de Bilbao, est allé dans un restaurant. Au moment de payer l'addition, ils ont payé 35 euros de supplément parce qu'ils s'étaient servi des toilettes pour faire l'amour. Ils ont posté sur les réseaux sociaux la facture, ce qui a fait le buzz. Vrai ou faux?
Pourquoi pas? Bon, allez, oui.
C'est idiot de faire payer les gens quand ils font l'amour, quand on y pense.
Surtout comment ils ont su.
Bah, s'ils ont fait du bruit...
C'est vrai? Vous faites du bruit quand...
Hein, c'est Olivia qui
répond. Je sais pas,
mais... C'est une... Merci la patate. C'est la question d'Olivia. C'est pour Olivia, là.
C'est une mauvaise réponse d'Olivia Ruiz, mais c'était un piège en même temps, cette question.
Ah, ils ont payé 40 euros.
Par contre, ils ont payé 10 euros en plus. Sur le ticket, c'était écrit « Por tocar los corones », comprenez, pour avoir été casse-bonbon.
Ah oui, ça n'a rien à voir. Ah, ils n'ont pas fait l'amour dans les toilettes.
Ça aurait été beaucoup plus drôle. Ah bah Eva, oui, et Olivia, la dernière question est pour toutes les deux. En octobre dernier, le Premier ministre Pedro Sanchez s'est retrouvé au cœur d'une polémique. Laquelle? Il a confondu le jambon serrano et le jambon ibérique. Il a dit préférer le rap au flamenco. Où il a déclaré que finalement, Manuel Valls était un type assez fiable politiquement.
Je dirais la première.
Mais ouais.
La première, le jambon serrano et le jambon ibérique. Et oui, c'est une bonne réponse.
Ouais, ouais, ouais,
il a dit
vrai.
Que le président chinois, ouais, en visite à Madrid avait adoré le jambon serrano. Or, c'était du jambon ibérique. C'est un peu comme si Édouard Philippe confondait du pâté et du foie gras. Le journal El País s'est déclaré indigné. Et je crois que pour la première fois de l'histoire, ou en tout cas la...
Non, c'est pas la première fois.
C'est Eva Rock qui remporte
parce
le quiz.
Parce que voilà, sans tricherie, bravo, sans rien, bravo.
On n'a pas de... Ah, c'est terrible parce que quand on invite on a une musique, genre. Mais quand Eva gagne, on s'en fout. Donc
c'est
pas
vrai, c'est pas...
C'est, voilà, c'est une victoire dans l'indifférence générale. Pas de musique pour Eva?
Oh là là.
T'as bien Méditerranée.
Non, arrêtez avec ça. Non,
merci,
non.
Bravo Eva.
Europe 1.
La deuxième phase du déconfinement a démarré avec la réouverture des restaurants, des terrasses. Mais dans l'équipée sauvage, on n'oublie pas les damnés du confinement. Tous ces parents dont les enfants n'ont pas pu reprendre les cours et qui continuent donc d'assurer l'école à domicile en parallèle de leur métier. Or, donner un cours de maths, c'est dur, même quand votre métier, c'est économiste. On avait pu le constater avec Axel l'autre jour.
Justement, j'étais en train de faire de la physique avec mon petit. Il était en train de diviser 0,6 par 0,01. Et alors, on ne comprenait pas du tout. Ça faisait un énorme chiffre.
Et oui, c'est pas gagné. Mon conseil. Laissez votre gosse se débrouiller tout seul. Et si après il s'ennuie et qu'il vient vous déranger, collez-le devant un écran. C'est la méthode Rock, la Dolto Trash. Ces conseils écran jeunesse arrivent juste après. Belle à en crever, Olivia Ruiz, doublement sur Europe.
Je voudrais juste une fois caresser ta peau blanche, la faire glisser entre mes doigts, de ta nuque jusqu'à tes hanches. Oh, je n'ai pas
C'était Olivia Ruiz sur Europe 1. Pas mal, non, Anissé?
Ça swing plus que Sardou.
Moi, j'étais. Ah, voilà,
l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Olivia Ruiz est notre invitée. Ça tapote, à tout va. Alors là, il y a une ambiance latine dans ce lieu. Hein. Olivia me disait qu'elle était latine. Ben là, c'est sûr qu'il n'y a aucune rigueur germanique dans cette émission. C'est vraiment tout le monde parle avec tout le monde. Olivia, vous avez un fils?
Oui.
Comment vous avez vécu ce confinement avec un enfant 24 heures sur 24?
Plutôt bien.
Plutôt
bien parce qu'on avait la chance de ne pas être à Paris. Moi, je l'emmenais tout de suite dans le sud. J'avais besoin d'être pas loin des parents au cas où il y avait pépins. Et donc, je ne l'ai pas vu, mais j'étais pas loin. Et dur quand même de le garder un peu concentré.
Et de l'occuper, quoi,
voilà. Et puis, il faut écrire la date tous les matins quand on a 4 ans.
Oui.
Et c'est au-dessus de ses forces. Le moindre effort est au-dessus de ses forces. Et puis là, il a un bras dans le plâtre, ça va pas.
Ah oui,
ça va pas nous aider sur l'écriture.
C'est vrai qu'il s'est fait un petit bobo. Alors, il y a les enfants à gérer, mais aussi les ados, dont les collèges n'ont pas encore ouvert.
C'est vrai.
Ceux-là aussi, il faut les occuper, sous peine que l'oisiveté étant mère de tous les vices, ils leur viennent l'idée d'aller vendre du crack à Barbès. Alors, on fait tout pour eux. On se décarcasse pour leur proposer des activités, mais voilà, l'ado est comme Axel de Tarlé dans l'équipée sauvage.
En fait, je suis content d'être là, mais je m'en rends compte que depuis que je suis là.
Traduction, voilà. Il est ingrat. Heureusement, Evaroc a mis au point une méthode infaillible pour avoir la paix à la maison, placer les gosses et les ados devant un écran.
Ouais, exactement. Alors, si j'ai bonne mémoire, votre fils, Olivia, a le chic de vous demander des gâteaux de folie avec plein de trucs dessus. Mais est-ce qu'il sait tout des fruits et des légumes qu'il mange tous les jours?
Alors, oui.
Ah, c'est vrai.
C'est un peu. Je suis un peu portée sur la chose, la diététique, le bio, depuis très longtemps. Donc
il a beaucoup de
connaissances. Voilà, ouais. C'est vrai qu'il est. D'abord, il mange de tout. J'ai du bol et pourvu que ça dure, comme dirait l'autre. Mais voilà, il a plutôt une bonne connaissance de ça parce qu'on a essayé de partir sur un truc un peu ludique, en goûte, on prend du temps.
Vous allez pouvoir prolonger.
Cool.
Avec un écran sur YouTube en l'occurrence, un programme qu'il va adorer. Ça s'appelle À table les enfants. Et par exemple, est-ce que vous savez, vous Mathieu, d'où vient la framboise?
La framboise, elle vient
l'origine du framboisier. L'origine géographique.
L'origine géographique de la framboise, j'en ai foutrement aucune idée.
La framboise est originaire de Turquie, un pays où l'on trouve de magnifiques palais.
Nous avons 1900 ans à construire votre palais.
Ah, merveilleux!
Il y a 18 chambres, 8 salles de bain et 3 piscines.
Comment ça, il n'y a que 3 piscines? Bon, ben, il suffit de tout démolir et de recommencer. Quand est-ce que vous pouvez démarrer les travaux?
Alors dans ce programme, en fait, c'est très mignon. Les fruits et les légumes sont des personnages à part entière. La framboise, par exemple, elle est représentée en diva, mais c'est logique parce que c'est un fruit qui est délicat et qui mérite de l'attention. Donc le dessin animé commence comme ça. Les pastilles durent 3 minutes. C'est bourré d'infos pratiques et avec un petit résumé en 3 questions à la fin pour voir si votre enfant a bien suivi. Donc la voix, la narration lui demande est-ce que donc d'où vient la framboise, de quel pays, etc. Ça s'appelle à table les enfants.
Mal, qu'est-ce qui se passe?
Bah rien du tout, sauf si vous êtes à côté. Exactement.
Mais gentil,
ça s'appelle à table les enfants. Je me suis dit que ça pourrait peut-être même inciter les petits à manger des fruits et des légumes. On peut toujours rêver, voilà. Mais c'est sur YouTube. Vous avez 183 épisodes, je crois.
Génial.
Donc vous êtes tranquille.
Pour faire manger des framboises aux enfants, vous le mettez sur les doigts.
Sur les doigts.
Comme ça marche à tous les coups. Merci Eva.
Europe 1.
Une première manche s'achève dans l'équipée sauvage. Anissé et Axel ont tout donné pour vous épater, ainsi que notre invité arbitre Olivia Ruiz. Anissé a joué la carte de l'écologie, Axel celle du gauchisme. Il aurait dû d'ailleurs s'arrêter là, car ensuite, durant la coupure pub, voulant absolument créer une complicité avec Olivia, il a tenté le clin d'œil à son sud natal. Sauf qu'entre le sud de l'ouest et le sud de l'est, il s'est trompé de sud.
Et voilà, j'ai habité Toulon, moi, alors c'est pour ça l'accent du sud, je sais bien le prendre.
Oh, fan des chichous, il faudrait un miracle pour qu'il en
j'ai aussi habité Toulouse.
Ne tentez pas
beaucoup déménagé.
Oui, mais voilà, mais restez.
Je sais moins bien le prendre, l'accent de Toulouse.
Ce qui n'est pas peu dit. À tout de suite pour une deuxième manche.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage déconfinement phase 2 J+1. Et quel bonheur les amis que de voir les restaurants et les cafés rouvrir. Quelle joie de pouvoir à nouveau se commander une petite mousse en terrasse et surtout redécouvrir la bonhomie, la gentillesse et la patience des garçons de café parisiens.
Bon, qu'est-ce que vous prenez ?
Je sais pas, ce que tu veux mon grand.
Pardon ?
Ce que t'as envie de nous servir, ça ira pour moi.
Bon, j'ai pas le temps de plaisanter. Là, je travaille, moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez boire ?
T'énerve pas. Sois cool. Tu vas te coller un ulcère avec ton agressivité. T'es déjà jaune comme un coin.
Vraiment, ça nous avait manqué. Olivia Ruiz est avec nous pour fêter ça. On continue de parler de La Commode au tiroir de couleurs, votre premier roman qui est une vraie réussite aux éditions Lattès. Juste le temps de vous présenter nos deux ultimes concurrents du jour. Et quels concurrents ? Le moment est d'autant plus émouvant que ce sont des retrouvailles, certes, mais virtuelles. Vu qu'ils sont encore chacun en duplex chez eux, l'un dans le Perche, l'autre chez son mari. Vous allez comprendre, Olivia, pourquoi c'est gênant, car oui. Entre Farah Kasri, notre vétérinaire, et Alain Sirou, notre consultant scientifique, il y avait Anguille Souroche, au grand dam de Monsieur Kasri, qui a expressément demandé à ce que ces deux-là ne se croisent plus physiquement en studio. Et hélas, ça marche, puisque la dernière fois que nous parlions d'Alain à Farah, elle avouait
« Oh là là, j'ai même oublié à quoi il ressemblait !»
Et voilà. Bonjour Alain Sirou.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour Olivia Ruiz.
Bonjour.
Nous aussi, on est en train d'oublier votre visage, Alain. Ça fait longtemps. Maintenant, il serait temps de revenir. Hein.
Vendredi, là, vous revenez.
Je vais revenir. Ouais, vendredi. Voilà.
Alors, Alain, vous êtes notre consultant scientifique. Si la plupart des gens sont déjà contents de ne plus avoir la limite des 100 km, vous voyez encore plus loin, puisque vous nous parlez aujourd'hui du tourisme spatial.
Bah oui, j'ai entendu ce week-end et j'ai vu ce week-end SpaceX rejoindre la Station Spatiale Internationale. Vous savez, on a parlé de voyages dans l'espace pour le privé. Et comme tous les enfants, je sais qu'Olivia, vous avez un enfant. Un garçon, eh bien moi j'ai rêvé d'espace et je me suis dit pourquoi pas monter une agence de voyage spatial et je vais vous faire quelques petites
ah,
bah,
ah pas mal.
Mais attention, hein, nos moyens sont quand même limités, hein, on travaille sur Europe 1. Face à vous Alain, virtuellement hélas, celle qui a hanté vos rêves, parfois coquins, durant le confinement. Celle à qui vous avez envoyé des messages moyennement subliminaux pour essayer de lui faire comprendre qu'elle gagnerait à échanger son mari contre vous.
Et puis dans la nature, vous avez des pommiers et vous avez des baobabs, vous voyez.
Oui, faut qu'elle voit, oui. Bonjour Farah Kasri.
Bonjour.
Farah, vous êtes notre vétérinaire, notre expert animalière et cet après-midi, vous nous mettez en garde. Reprendre les balades en forêt avec son chien, c'est bien, mais en évitant les tiques et les intoxications avec des plantes, c'est mieux.
Oui, il y a aussi un risque avec les épillés. Voilà, il y a plein de petites choses auxquelles il faut quand même penser pour que votre promenade ne se transforme pas en cauchemar.
Alors, se balader en forêt en évitant les tiques avec Farah Kasri ou bien partir beaucoup plus loin à bord d'une grosse fusée pilotée par Alain Sirou.
Vers l'infini et au-delà.
Oui, visiblement une fusée bicarburant, kérosène et...
Un petit coup de gnôle, c'est vrai que c'est un peu l'heure.
Oui, un coup de gnôle aussi. Quel sujet l'emportera? Olivia Ruiz, je le sens, frétille d'excitation. Mais n'allons pas trop vite en besogne, car là tout de suite c'est l'heure du mix. Qu'est-ce que le mix, Eva?
Eh bien, avec Sébastien Bordonnave, on scrute les réseaux sociaux pour y dénicher des moments un peu décalés, un peu sympas, un peu drôles. Aujourd'hui, c'est l'humoriste urbain qui l'affirme, il sera le dernier à applaudir au balcon en soutien au personnel soignant. Et puis on va commencer avec Marie Reynaud qui, elle, fête en chanson la réouverture des restos.
Ouvrez, ouvrez la porte des restos. Y en a marre de manger des pâtes carbo. J'voudrais un vrai risotto préparé par un piston et amené par un serveur qui veut pécho.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens du quartier qui se demandent mais qui est le con qui continue à applaudir. Bon bah, mystère résolu, c'est moi. Parce qu'évidemment, ça plaît pas à tout le monde. Alors, des insultes, des colibés, des... Tu vas fermer ta gueule, oui ! Parce qu'ils veulent me faire taire. Elle est là, l'explication. Évidemment qu'ils veulent me faire taire. Comme tous les grands.
Ouvrez la porte des bars à bobo. Je veux un mojito coupé à l'eau.
C'est pour ça.
Excusez-moi, mais la dernière fois que vous avez coupé à l'eau un mojito, Eva, j'étais pas là pour le voir.
Ah bah, mais dans les bars, ils vous le coupent à l'eau.
Ah oui, mais vous le renvoyez.
Ah bah oui. Bien sûr.
Le vrai mojito, j'ai pas demandé un Virgin Mojito. Je veux le vrai truc.
Voilà, c'était le mix du jour concocté avec Sébastien Bordonnave.
Vous êtes, vous Olivia Ruiz, vous êtes quel genre? Vous êtes du genre à vous précipiter dans les restos, dans les terrasses de café, ou vous êtes encore un peu flippé, sachant que vous avez eu probablement le coronavirus, donc vous savez à quel point le virus est retors, ou est-ce que vous avez envie de contact social?
J'ai hyper envie, mais moi j'ai fait quelques écarts quand même pendant le confinement, pour tout avouer, les 40 ans d'une de mes meilleures potes. Parking de Carrefour, les deux bagnoles à 3 mètres l'une de l'autre.
Ah oui, distance.
Oui, mais j'ai pas renoncé à tout. Je suis déjà tellement malheureuse de pas pouvoir toucher la peau des gens que j'aime que j'ai fait deux trois petits écarts. Donc je me suis pas précipitée là, puisque j'ai quand même eu l'occasion de voir un tout petit peu de monde et à bonne distance.
Une partie de l'histoire de votre roman « La commode au tiroir de couleurs » se passe dans un café à Marseillette. Mm-hmm. C'est du vécu. Ouais. Quand on parle d'une dimension autobiographique dans le roman, il y a quand même deux, trois trucs.
Oui, absolument. Bon, du coup, les personnages n'étaient pas les mêmes. Mais par contre, oui, moi j'ai grandi de ma naissance jusqu'à mes 12 ans dans un café qui était tenu par mes parents, mes grands-parents maternels. Et deux de mes oncles, donc quand même, effectivement, c'est le sujet de Je traîne des pieds aussi. Voilà, ce lieu, il m'a tellement nourrie. Et j'ai trouvé que c'était tellement quelque chose de génial pour une toute petite enfant d'être confrontée très tôt à la différence, encore une fois, que de toute façon, je crois qu'il fera toujours partie de tout ce que j'écris, parce que c'est une madeleine, quoi.
Eux aussi, ils sont multifacettes, scientifiques rigoureux d'un côté, amants dépravés de l'autre. Farah Kasri et Alain Siroux vont maintenant s'affronter.
Europe 1.
Avec une telle voix et un tel sens de la formule, il aurait pu facilement devenir la voix française des plus grands pornos tchécoslovaques.
Si vous sentez que vous êtes dans un trou noir, il y a toujours moyen de s'en sortir.
Hélas pour la pornographie et heureusement pour la science, il a choisi l'astrophysique. Alain Siroux vous emmène pour de bon dans les étoiles, Eva. Car cette fois, ça y est, le tourisme spatial, c'est pour demain, ou quasiment.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Olivia Ruiz est notre équipière sauvage cet après-midi pour fêter la sortie de son tout premier roman, La commode au tiroir de couleur chez Lattès. Lui aussi, il avait une commode dans sa chambre d'enfant. Les tiroirs n'étaient pas de couleur, mais dessus trônait fièrement, bien calé entre sa collection de Penthouse et de Playboy, la réplique d'Apollo 11. D'ailleurs, même si plus tard Alain Siroux devait se marier, et même encore plus tard draguer Farah Kasri, il resterait toujours marié avant tout avec la science. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il ne s'est finalement rien passé avec Farah.
Oui, c'est vrai qu'avec son petit corps velu, ses yeux exorbités, c'est vrai que c'est quasi impossible de pouvoir l'attraper.
Oui, difficile de l'attraper. Mais Alain Siroux n'a qu'un seul rêve, s'envoyer en l'air tout seul, ou à la limite avec Elon Musk. Or, ça va bientôt devenir possible. Le tourisme spatial, Alain, on y est.
Eh bien, écoutez, on va essayer. C'est pour ça que je vais tenter d'ouvrir une petite agence de voyage spatial et vous pourriez être mes premiers clients. Alors, je voudrais vous faire quelques petites offres, si vous voulez bien.
Allez-y.
J'ai démarré par le haut de gamme, une offre prestige pour vous, avec un voyage autour de la Lune, organisé par SpaceX. Alors, l'annonce, c'est 2023. Vous partez à bord d'un vaisseau qui n'est pas encore très bien connu.
Ça, c'est un peu angoissant quand même.
Oui, ouais, mais il y a déjà des réservations. Il y a un milliardaire japonais qui s'appelle Yakuza Maiza, qui est un designer de vêtements, qui aurait, paraît-il, signé, puis il va emmener des artistes à bord, peintres, créateurs de mode, réalisateurs, etc. Bon, c'est un petit peu cher, c'est entre 2 et 3 milliards de dollars, d'après l'annonce que j'ai pu avoir.
Quoi ? Attends, ouais, le ticket, c'est 2 milliards, mais 2 milliards, c'est beaucoup trop, Alain.
Oui, 2 milliards, c'est beaucoup, mais vous savez, les prix sont... C'est environ, hein, le viron étant une assez bonne idée de mesure pour les prix du spatial. Donc, comme je sais que c'est un petit peu cher, je vous ai gardé une offre plutôt haut de gamme. Un hôtel en orbite, ça vous tente, ça ?
Un hôtel
accroché à la station spatiale.
Ah, c'est pas mal.
Il y en a un qui va être construit, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et vous savez que son intérieur est designé par Philippe Starck, le fameux designer français. Ça ressemblera, d'après ce que j'ai pu voir, à un cocon, une espèce d'œuf, avec de grandes fenêtres sur la Terre. Bon, le voyage de 10 jours, il faut quand même s'entraîner pendant 6 mois et ça coûte à peu près 55 millions de dollars.
Ah, mais là, c'est quand même plus abordable. Là,
c'est plus abordable.
Non, finalement, je sais pas.
Attendez, il faut compter. Combien vous touchez par livre ? On va compter.
Je sais pas, tiens, d'ailleurs, c'est vrai, c'est une vraie question.
Non, mais 55 millions de dollars, disons qu'on gagne l'euro million, on est. C'est le rêve d'une vie. On peut faire ça.
C'est encore faisable. Il y a 7 milliardaires qui l'ont déjà fait à bord de la Station Spatiale Internationale. Donc, je vous ai gardé encore une petite offre découverte. Restons haut de gamme. Avec, justement, la capsule Dragon qui est partie le week-end dernier, qui devrait emmener pour à peu près 60 millions de dollars par individu des passagers touristes à 800 km d'altitude. C'est-à-dire deux fois l'altitude de la Station Spatiale Internationale. Et là, c'est facile, vous vous installez dans le siège, vous vous laissez porter, vous regardez par le hublot et vous voyez la Terre, cette boule extraordinaire, toute bleue, parfaitement roulée sous vos pieds. Ça peut durer quelques jours, environ, toujours la même unité de mesure. Et là, pour 60 millions de dollars, c'est pas si mal. Bon, si vous avez un budget un peu serré quand même...
On est plutôt serré comme budget. Déjà qu'on a du mal à partir au Portugal, dans l'espace, je sais pas.
Alors, je vous propose de toucher l'espace, sans faire le tour de la Terre, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle un vol suborbital. Alors là, vous avez...
Ça sent l'arnaque, ça.
C'est-à-dire que vous êtes expédié à 100 km d'altitude, un peu comme si on lançait un caillou.
Avec une catapulte.
Et puis, pendant quelques minutes, vous flottez, vous regardez la Terre, et puis vous retombez. Alors là, il y a deux possibilités.
Soit vous vivez, soit vous mourrez.
Il y a une liste d'attente. Il y a déjà 600 personnes inscrites.
Et ça, c'est combien ?
Alors, ça coûte 250 000 dollars.
Ah là, on est presque dans l'abordable. Enfin...
C'est pas mal, c'est pas mal. Et puis vous pouvez voyager aussi avec Jeff Bezos bientôt. Ça sera 6 passagers, ça s'appelle Blue Origin. Et là, c'est à peu près 200 000 dollars. Bon, et puis si vous êtes vraiment fauché parce que vous bossez à la télé ou à la radio, dans une blague, mais je vous propose une offre découverte de la pesanteur de l'espace. C'est-à-dire, vous faites finalement un petit voyage en avion. Vous partez de Bordeaux-Mérignac à bord de l'Airbus 310. C'est la compagnie R0G qui a été créée par l'astronaute Jean-François Clairvoy. Et là, vous faites un vol parabolique. C'est-à-dire que vous montez en avion, puis l'avion chute, et pendant 30 secondes, vous flottez.
Et on vomit. Alors,
visiblement, Eva l'a fait.
Ça coûte 6 000 euros. Ouais.
6 000 euros, ça dure combien de temps pour 6 000 euros ? On se fait combien de
d'apesanteurs ? Ça dure à peu près une heure. Vous faites des vols de 0G de 25 à 30 secondes pendant lesquelles vous flottez. Et ça, c'est plutôt rigolo. Il y a plus de 11 000 personnes qui l'ont fait. Et j'ai gardé quand même une petite chose en finale, c'est-à-dire que si vous n'avez pas du tout d'argent, vous pouvez croire au hasard. Et il y a un Suisse qui a proposé de créer une petite société qui s'appelle Swiss Space Tourism. Vous vous inscrivez pour 100 francs suisses, et là, s'il atteint 25 000 cotisants, alors il va offrir, entre guillemets, 5 places tirage au sort, puisque c'est à peu près le coût du voyage spatial en suborbital. Et si vous avez de la chance, eh bien pour 100 francs suisses, vous pourriez peut-être atteindre...
Alain, c'est un mail que vous avez reçu, ça s'appelle un spam. Hein. C'est comme les autres mails avec Enlarge au pénis, ça ne va pas marcher non plus. Donc, pas la peine d'envoyer d'argent, ni 100 francs suisses, ni même 1 franc suisse. C'était une chronique intéressante. Merci Alain Sirou. Eva, qu'est-ce qui vous manquerait le plus, vous, dans l'espace ?
Le sexe, évidemment.
Ah oui, je suis bête. Comment peut-on tellement aimer le sexe et si peu le pratiquer ? Telle est la question que tous ceux qui connaissent bien Eva.
Et voilà, vous avez honte. Hein,
même
vous
si on a un peu la réponse, elle passe son temps à bouffer des séries et des films afin de nous aider à faire notre choix le soir venu. Elle n'a plus le temps pour autre chose. Sa sélection télé-écran, c'est juste après Angèle, la thune sur Europe 1.
Tout le monde, il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait parler. Tout le monde, il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger. bouger leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta, c'est obligé. Sinon, au fond, à quoi ça sert? Si c'est même pas pour leur montrer. Et puis, à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens. Mais tu les laisses tous indifférents. Oh. Je devrais m'éloigner, loin du game, loin du danger. Mais j'avoue, j'aime bien jouer. Si c'est de moi dont on va parler, où j'oublie tout et je m'en vais. Yeah. Moi, je m'en vais marcher, naïve comme jamais, loin des regards armés. À quoi bon? T'es tellement seule. Fais partie de ces gens-là, rassurés quand les gens ils m'aiment. Et si c'est très superficiel, tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Et seulement ça, ça les fait parler.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la
faille.
Et seulement ça, ça les fait bouger.
Tout le monde il veut seulement la faille.
Et puis à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. À ce que vont penser les gens.
La thune, c'était Angèle sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Un défouloir pour vos zygomatiques, un coup de fouet pour vos neurones. Vous écoutez l'équipe est sauvage. Deux heures d'une intense bataille entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 au service de votre culture G, entrecoupée de moments rieurs comme lorsqu'Eva Rock décide de poser une question à un invité. Ça démarre au niveau du cortex inférieur, où la question se forme
oui,
par la friction des neurones. Puis la question est véhiculée jusqu'à la bouche, d'où elle jaillit comme un geyser fou. Ce qui donne souvent des trucs comme...
Quand vous savez ce que vous avez écrit et voilà, ce qu'on vient de vivre, comment vous situez dans tout ça?
Heureusement, je
vous
rassure
qu'on fasse
notre
un
invité
concours,
Olivia Ruiz.
Est-ce que vous voulez qu'on fasse un concours de la question la plus con?
Est-ce que je ne les mets pas, mes questions con, ensuite?
C'est vrai,
est-ce
pas assez.
Est-ce
pas
que
assez.
Je ne les rediffuse pas? Je les rediffuse tous les jours, au moins une question con par jour. Il y a toujours de la matière. Heureusement, Eva, vous n'êtes pas qu'intervieweuse, vous êtes expert média.
Surtout, oui, voilà.
Expert média, vous avez une légitimité à nous guider dans les programmes télé.
Ouais, alors ce soir, direction Canal+, pour une soirée Blanche Gardin, avec deux spectacles. Ils vont commencer la diffusion de Bonne Nuit Blanche, qui était son dernier spectacle, celui de 2019. Et puis après, Il faut que je vous parle, c'était son premier seul en scène qui débutait comme ça.
C'est important de rigoler. Moi, j'ai lu quelque part en plus qu'une bonne rigolade, ça équivaut à un gros steak. Peut-être pour ça que les végétariens font toujours la gueule, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi on nous balance ce genre d'infos. Hein. C'est rigolade, ça vaut un steak. Et si, enfin, ou alors, faut en faire quelque chose de l'info. Envoyer des clowns en Afrique, par exemple. Parce qu'elle a envie de prendre le bateau, je sais pas.
Alors, je vous ai mis un extrait diffusable à cette heure-là de la journée, parce qu'il y a certains passages qui sont vraiment très noirs et très trash. Les deux spectacles sont absolument hilarants et acides. Statique face à son micro, hein, Blanche Gardin débite des horreurs. Alors, parfois jusqu'à provoquer le malaise, mais c'est ça qui est bien aussi avec Blanche Gardin. Ce spectacle, Il faut que je vous parle, n'a pas été filmé. Donc, vous allez le découvrir en dessin. C'est-à-dire que vous entendrez la voix de Blanche Gardin, comme vous venez de l'entendre, il n'a jamais été capté.
C'est une super
vous
idée.
Allez entendre les réactions du public, le vrai public, mais c'est représenté graphiquement grâce à l'art du dessinateur Fab Caro, qui adore Blanche Gardin, et, voilà, et qui représente Blanche à la fois dans ses différentes attitudes un peu statiques face à son micro, mais quand même, et avec le public aussi qu'il dessine d'un trait. C'est absolument magique. C'est assez étonnant au début, c'est un peu déroutant, mais vraiment, je vous le recommande. Ça, c'est le deuxième spectacle, donc, qui est diffusé en deuxième partie de soirée, mais vous pouvez faire toute votre soirée avec Blanche Gardin à partir de 21h sur Canal+.
Voilà. Je crois que votre choix a convaincu notre invité aujourd'hui.
Absolument. Et vous, Mathieu?
Ça va sans dire. Moi, je conseille aussi un film où il y a Blanche Gardin. Je ne sais pas si elle l'a coécrit. C'est Problemos.
Problemos avec Eric Judor.
C'est pas mal du tout. C'est assez gratiné.
Tout. Selfie aussi avec Blanche Gardin.
Mais voilà. Bon, on ne va pas tous les citer. Elle est formidable. On l'a compris. Merci Eva Rock pour ses choix télé.
Europe 1.
La phase 2 du déconfinement, c'est pour beaucoup de citadins la réouverture des parcs et jardins. Du pain béni pour l'animal de compagnie préféré des Français. Va, je vous le donne en mille.
C'est un phoque ou un truc comme ça, là, non?
Presque le chien. Mais avant de vous ruer dans les jardins avec votre toutou, quelques consignes importantes, car attention, comme Farah Kasri va nous l'expliquer, les tiques sont là.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Olivia Ruiz est avec nous cet après-midi, non pas la chanteuse, non pas la comédienne, mais la romancière. La commode au tiroir de couleurs sort aujourd'hui, c'est votre premier roman, Olivia, et vous êtes une vraie conteuse, on le découvre vraiment avec ce roman. Est-ce que vous avez, c'est une question encore innocente et peut-être un peu bébête, mais est-ce que c'est spontané chez vous l'écriture ou c'est travaillé? Est-ce que vous avez pris, je ne sais pas, des cours d'écriture? Est-ce qu'il y a eu un ping-pong avec votre éditeur? Comment vous vous êtes lancée dans ce roman?
Alors non, des cours d'écriture non, mais un ping-pong carrément. D'abord avec Olivia, mon agente, et ensuite avec l'éditeur. Et vraiment, on a perdu beaucoup de pages. Enfin, j'ai perdu beaucoup de... Voilà. Vraiment. Mais par contre, clairement, avec un peu de recul aujourd'hui, au profit de l'immédiateté du texte, et c'est ce que je souhaitais. Mais elles étaient rigolotes. Alors là, c'est... On va virer tout ce passage. Ce sera pour ton deuxième roman. Voilà, pour
c'est
me faire avaler. Voilà, c'était très, très mignon. Oui, mais bienveillant.
Olivia, on l'a dit avec Eva, on a adoré le livre. Mais une chose manque cruellement dans ce roman. Un chien. Erreur de débutant. Les Français adorent les chiens. Il faut toujours en glisser un dans un roman. Farah Kasri, notre
veto. Je jure que pour le prochain, je vais retenir ça. Et vous aurez votre dédicace avec un petit chien.
Il s'appellera Noël, le chien. Voilà, quelle bonne idée, Eva. Merci.
Ça va bien se vendre en tout cas, c'est le premier, mais le deuxième. Elle est notre dernière concurrente du jour. Farah, c'est une des dernières recrues de l'équipe Sauvage à ce qu'on appelle une notoriété en construction, comme elle a pu le constater la semaine dernière quand Axel de Tarlet l'a confondue avec un célèbre humoriste.
Et c'est qui l'autre là? Comment ça l'autre? Paris, hein?
Paris?
Non.
Farah. Alors Farah Kasri, ne prenez pas ombrage des propos d'Axel de Tarlet, il cherchait probablement à vous déstabiliser. Expliquez-nous pourquoi il va falloir faire gaffe si on prévoit une sortie en forêt avec notre chien dans les jours qui viennent.
Oui, mais de toute façon, il y a plusieurs petits risques, hein, je vous en donne que deux. Le premier, c'est celui des épillés. Vous savez que quand vous vous promenez au bord des champs, enfin, surtout les champs de blé, c'est l'extrémité de la tige, le petit bout qu'on appelle l'épi avec plusieurs épis. Eh bien, votre chien risque d'en avoir dans son pelage, mais surtout, cet épillé risque de s'introduire dans les orifices, le nez, les oreilles, ça peut aussi aller sous les coussinets, ça peut même traverser la peau, et surtout, il ne faut pas le retirer vous-même, sauf s'il est vraiment en surface au niveau du pelage de votre chien. S'il a traversé la peau, surtout, vous ne le retirez pas, parce que c'est comme une flèche, ça ne va que dans un seul sens. Si vous tirez sur l'épillé, eh bien, ça va s'accrocher et ça risque de provoquer des dégâts. Donc la seule consigne à avoir, c'est d'aller voir votre vétérinaire et de lui dire, je sais pas, il a quelque chose qui le dérange, et ça sera vraiment sous guidage radioscopique pour aller voir et retirer l'épillé avec une pince spéciale dans le bon sens, vraiment pour que ça évite d'accrocher et d'altérer les tissus.
Excusez-moi Farah, mais vous allez me trouver égoïste, mais si ça peut faire mal au chien, ça peut nous faire mal à nous aussi.
L'autre hypochondriaque.
Quand je me balade à côté d'un champ de blé, voire que j'entreprends d'autres activités dans un champ de blé avec une amie de passage, eh bien, je ne pense pas à ça. Attention à l'épillé, donc c'est ce que vous nous dites, quoi.
Non, l'épillé, c'est surtout pour les animaux, notamment pour le chien et tout. Mais ça peut, oui, un petit peu, mais franchement, l'humain, c'est pas vraiment un danger.
Et alors, un autre danger pour les chiens, autant pour les chiens que pour leur maître. Alors ça me fait flipper. Alors on arrête de rigoler, parce que ça, c'est flippant. Ça, c'est flippant, c'est les tiques. qu'est-ce qu'on fait avec les tiques?
Alors déjà, on essaie de les éviter, mais bon, il faut savoir que les tiques se placent en haut d'une tige à l'affût d'un nouvel hôte. Hein. C'est vraiment, ils se mettent comme ça, les bras en l'air pour pouvoir s'accrocher dès qu'un animal ou un humain passe. Elles vont sauter, rester agrippées sur la peau, soit entre les poils ou dans les plis. Il faut savoir qu'elle va grimper la tique durant plusieurs heures. Et quand elle est au calme, pof, avec son rostre, c'est les pinces buccales, elle va mordre. On parle de morsure et pas de piqûre quand on parle de tique. Et elle va faire son repas sanguin. Et pendant son repas sanguin, elle peut très bien relarguer des bactéries, des virus. Et il y a vraiment une liste interminable de maladies. Et celles qui sont communes à l'homme et à l'animal, c'est la boréliose, qui est appelée en médecine humaine la maladie de Lyme. Et aussi la pyroplasmose, qu'on appelle la babéliose. Ce sont des maladies infectieuses qui vont s'attaquer aux cellules du sang. Et là, il faut faire très attention. Donc, pour le chien, il y a un traitement préventif. De toute façon, contre la pyroplasmose, ça va être un vaccin.
Mais il n'y a pas de vaccin pour nous, les hommes?
Non, il n'y a pas de vaccin pour les humains, mais il y a des précautions à prendre. Et pour votre chien, de toute façon, il faut absolument aller chez le vétérinaire, non seulement pour le vaccin, mais aussi pour les traitements préventifs anti-tiques. C'est des répulsifs et des traitements qu'on pose au niveau de l'encolure. Et ça aide le chien à se protéger. Et surtout, quand vous revenez de promenade, ou même pour votre chat, s'il revient de sa petite promenade, votre chat, vous inspectez de la tête aux pieds jusqu'à l'extrémité de la queue votre animal. Hein, vous commencez par la truffe, les oreilles, vous descendez au niveau de l'encolure, vous descendez le long des membres supérieurs, enfin les membres avant, je veux dire, jusqu'au coussinet. Vous regardez bien les plis, vous allez vraiment jusqu'à la queue de l'animal. Vous n'oubliez pas même les orifices parce que les tiques se cachent partout.
Bien sûr, les tiques. Le tic est retors, on l'a bien compris. Hein. Le tic est une belle saloperie et il faut bien aller, Eva. Jusqu'où il faut aller, Eva? Vous avez noté. Il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de la queue. C'est important.
Alors, moi, je parle de la tique et pas du tic, d'accord? Donc, attention.
C'est pour ça que j'ai dit, je me suis permis de dire la salope tout à l'heure, parce que j'ai entendu que c'était féminin. La tique, effectivement. La tique est une saloperie. Merci beaucoup, Farah Kasri.
Europe 1.
Hier, nous fêtions les amis la réouverture des cafés et des restaurants. Seulement, voilà, faut-il vraiment s'y précipiter, sachant qu'après 3 mois et demi d'inactivité, les cuistots et leurs commis ont certainement un peu perdu la main.
Patron, j'ai baissé le gaz, mais les friands, ils sont noirs comme des charbons.
Laissons-leur le temps de reprendre leur marque. En attendant, cuisinons encore un petit peu à la maison, grâce à Olivier Pouls. Délice in extremis arrive.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
C'est une chose fascinante que la résilience. Durant ces 2 mois et demi de confinement, après une première semaine difficile psychologiquement, beaucoup d'entre nous ont réussi à voir le verre à moitié plein, à trouver formidable les concerts privés d'artistes dépressifs en pyjama sur Facebook Live. Beaucoup, mais pas tous, car certains sont restés lucides, comme notre invitée d'hier, la romancière Tatiana Doronet.
Tatiana Doronet, est-ce que vous avez beaucoup consommé les concerts comme ça, comme on a pu voir pendant ce confinement?
Alors, il y en a, je vais pas donner de nom, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns que j'ai trouvé un peu... Je trouvais que c'était courageux.
Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille.
Aujourd'hui, c'est Olivia Ruiz qui nous accompagne.
Elle est choquée, Olivia Ruiz.
Mais oui, je suis surprise. Je ne sais pas comment le vivre.
Vous avez fait des concerts sur Facebook, vous, pendant le confinement?
Mais non, mon fils m'en empêchait tous les jours. Je disais, allez, je vous fais une chanson, demain, je commençais. Non, maman, arrête, pourquoi tu chantes pour eux? Tu ne les connais même pas. Voilà, donc j'ai renoncé à enregistrer, confiné dans un appartement. Avec mon fils.
Alors aujourd'hui, Olivier, on en a parlé durant ces 2 heures. On vous reçoit pour ce très beau premier roman, La commode au tiroir de couleurs, qui parle beaucoup de transmission, de tous ces secrets qui sont restés des secrets dans votre vraie famille et qui sont dévoilés dans le livre sous forme de roman. Comment vous allez faire vis-à-vis de votre propre enfant, justement? Vous allez tout lui dire? Vous allez être d'une transparence totale ou vous pensez qu'il y a quand même certains secrets qui sont nécessaires?
Alors c'est compliqué parce que quand on a vécu dans cette culture-là, de la pudeur, du secret, il faut se poser. De la force pour s'en extirper, mais moi j'aimerais beaucoup essayer d'être au maximum dans la transparence avec lui. Alors, à chaque âge, ses préoccupations, donc bien évidemment, étape par étape au fil de la vie, mais c'est vrai que si j'arrivais à être un peu plus transparente qu'on l'a été avec moi, je serais ravie parce que, encore une fois, je pense que la libération de la parole sur tous les sujets ne peut être que bienfaitrice.
Sauf qu'en même temps, quand on est artiste,
bienfaisante. Non, je sais pas.
Sauf que quand on regarde votre parcours, on se dit que cette quête des origines, ça a été un moteur pour vous, peut-être un moteur artistique aussi.
Oui, il y a quelques fois, je me demandais si tout ça, cette recherche de légitimité, elle m'appartenait vraiment. Voilà. Je sais pas si j'aurais eu la même niaque et la même pugnacité si j'avais pas été héritière de ce voyage-là et de probablement certaines douleurs. Peut-être que je cherche à les légitimer, eux, finalement, aussi, un peu, à travers tout ça.
Vous lui parlez espagnol à votre fils ?
Un peu. Ils sont
contre-fiches. Ils sont pas les Coronets, visiblement.
Complètement. Mais complètement. Voyez, vous connaissez un peu l'espagnol, finalement.
Ah, plutôt, hein. Les mots essentiels.
Voilà, donc non. Il adore chanter en espagnol. Il me fait mourir de rire. Là, en ce moment, il reprend un morceau de flamenco que je chante avec mon père. C'est très, très drôle. Un petit bout, là, qui chante du flamenco avec fougue. Mais après... Non, alors, il sait qu'il est franco. Il connaît la guerre d'Espagne. Il pose énormément de questions sur les grands-parents.
Déjà, donc il est très, très bien informé, là.
Oui, oui, oui. On a beaucoup de bouquins super bien sur les migrants à expliquer aux enfants, parce que moi je voulais justement qu'ils fassent partie de ceux qui seraient accueillants dans le futur avec les gens d'ailleurs. Donc ça va dans cette logique-là. Mais c'est vrai qu'il pose quand même beaucoup de questions. Et qui est le père de Papito ? Et c'était qui le grand-père de Mamita ?
Oui, c'est ça, il est très demandeur quand même.
Voilà, oui, c'est vrai. Il est curieux.
La commode au tiroir de couleurs chez Lattès. On vous recommande vraiment ce roman avec Eva Olivia Ruiz. Sachant que la dernière fois, à l'issue de l'émission, vous m'aviez noté toute une liste de petits vins sympas de votre région qui figurent désormais en bonne place dans ma cave. Ne bougez pas, la séquence qui suit devrait vous plaire.
Europe 1.
Le processus d'écriture est propre à chaque auteur. Vous, Olivia, je ne sais pas comment vous travaillez, mais Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique, est réglé comme une horloge. Il commence toujours à écrire sa chronique à un moment bien précis.
Le bon moment, c'est quand la bouteille de rosé est finie.
Des In Extremis, la recette qui vous sauve la mise, arrive juste après une nouveauté qui pourrait faire un joli carton cet été,
non.
Eva. Jean Vincent, Biba Peloua. Biba Lula, c'était Gene Vincent sur Europe 1 et beaucoup de souvenirs pour Eva Rock qui a pas mal guinché là-dessus après-guerre.
Connard.
Restons courtois.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Jean-Pierre Marielle.
Bien mérité, hein.
Quand je prononce le nom de Jean-Pierre Marielle, j'aimerais bien que vous me taisiez.
Allez-y.
Jean-Pierre Marielle n'avait que deux passions.
J'ai deux passions dans la vie. La sexualité de groupe. Les maisons normandes.
Olivier Pouls, lui, en a une troisième, la gastronomie. Et quand toutes ces passions se mélangent dans sa tête, ça donne des moments de radio gênants à une heure de grande écoute.
Je vous propose un programme d'été de barbecue pour ce week-end. Mais je me déshabille alors ?
Pas la peine, Olivier, on peut faire un barbecue habillé, c'est une possibilité.
Mais le barbecue nu.
Oui, oui, bon, d'accord,
c'est bon.
Olivier Pouls, vous êtes notre expert gastronomie. Entre autres. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui comme recette facile et goûteuse ?
Eh bien, on continue la série apéro, puisque
ah oui.
C'est le moment des
eh
retrouvailles.
Oui, cher à votre cœur. Mais oui.
Olivia, est-ce que vous avez organisé déjà quelques apéros avec vos copains là, depuis qu'on se déconfine ?
Non, pas encore, mais ça va venir, oui, bien sûr.
Ben surtout avec la bonne idée que je vais vous donner. Car je vais vous livrer l'une de mes recettes secrètes pour un petit tapas d'apéro qui claque, comme on dit. Alors écoutez bien l'intitulé, Blinis au sarrasin, crème légère citronnée et œufs de saumon.
Pas mal,
extrêmement
super.
Facile. Alors la recette du blinis au sarrasin, c'est enfantin. Un pot de yaourt. Vous le videz. Vous remplissez ce pot de yaourt, moitié farine normale, moitié farine de sarrasin. Vous cassez un œuf dans le tout, vous mélangez un demi-sachet de levure, vous laissez poser une heure et vous avez une pâte à blinis extraordinaire. Vous n'avez plus qu'à les cuire dans une poêle bien chaude avec un tout petit peu de matière grasse.
Avec ou sans yaourt, pardon ?
Ah bah évidemment, le yaourt, vous l'utilisez pour lier. Évidemment, donc
d'accord.
C'est le yaourt, l'œuf et la farine dans le doseur, en fait, c'est le pot de yaourt.
Même voilà. Les petits tapas, elle n'est pas capable de
mais
suivre.
Mais si, je préfère demander la précision. Voilà.
Après, une petite crème crue achetée chez le fromager, avec un petit trait de jus de citron, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, que vous mélangez bien, vous posez ça sur le blinis, et des œufs de saumon par-dessus. En ce qui nous concerne, Mathieu lui préfère
du
mettre
caviar.
Un bon caviar beluga. Ah,
je sais pas, j'en ai jamais goûté,
ça marche
mais
c'est très bon. Oui, c'est très
le
bon,
jour,
je confirme.
Oui.
Et des œufs de saumon, c'est un produit qu'on a un peu oublié. Il faut plutôt prendre des œufs de saumon bio, c'est bien meilleur en termes de qualité et puis souvent de goût, parce que le saumon, c'est pas toujours terrible. Mais alors, la petite texture de l'œuf de saumon qui est un petit peu un peu gros, hein, l'œuf de saumon, quand ça claque dans la bouche comme ça avec le sarrasin et la crème crue qui vient emballer le tout,
super.
C'est fantastique.
Merci Olivier, votre recette est disponible sur le site d'Europe 1 en podcast et on vous retrouve évidemment dans la tête des bons vivants chaque samedi avec Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
C'est un moment que très certainement Olivia Ruiz attend avec impatience. Dans quelques secondes, nous saurons qui a été élu chroniqueur du jour.
Ah.
Ouais, c'est vrai que vous êtes une formidable actrice.
C'est pas vrai.
A tout de suite pour la grande finale.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Olivia Ruiz était notre deuxième invitée déconfinée. Olivia, c'était un bonheur de vous accueillir à nouveau dans le studio Coluche. Vous étiez venue nous voir en octobre dernier. Bien de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Nos journalistes se sont affûtés. Personnellement, je crois que j'ai énormément progressé. Je pense que vous l'avez ressenti.
Vous êtes une catastrophe ambulante.
Bien. Il ne nous reste plus qu'à procéder au vote. Ils sont quatre, mais il n'y a qu'une seule couronne de chroniqueur du jour. D'ailleurs, il n'y a même plus de couronne, j'ai oublié de la prendre en studio. Alors, bien sûr, ils en rêvent tous. Hein, Axel, la nuit dernière, dans votre rêve, je suis sûr que vous étiez...
Sado, maso, oui. Torse nu, dominateur, en cuir, tenu en laisse,
non.
Par Geoffroy de Bézieux, du MEDEF.
Oui, non, mais... C'est le moment du qui tout double, les amis. Calmons-nous. Vous avez chacun 10 secondes pour nous expliquer pourquoi vous êtes le meilleur. Anissé Mbida.
Parce que cette année 2020 a très mal commencé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle que de savoir que les plus gros polios de la planète sont obligés de devenir un petit peu écolo et de parler de développement durable.
Les armes bio, c'était votre sujet vraiment étonnant aujourd'hui. Farah Kessri, pourquoi voter pour vous et vos horribles tics ?
Bah, peut-être parce que je vais vous sauver la vie, tout simplement.
C'est vrai ?
Votre famille. En fait, il y a une application qui a été conçue par l'INRA de Nancy. C'est Signalement Tic. Donc, vous pouvez la télécharger, regarder les régions de France où il y a le plus de tics et surtout avoir plein de conseils et tout. Donc vous pouvez même leur envoyer une tique si vous l'avez attrapée. Ils vont faire une autopsie de la tique pour savoir s'il y a eu des bactéries, des virus ou si vous ne risquez rien.
Oh, Ah, ça, c'est vachement, non, mais ça, c'est vachement bien. Comment ça s'appelle l'appli?
L'autopsie de la
signalement tique.
Eh bien, ouais. En bonne hypochondriaque, je vais faire ça tout de suite après l'émission. Alain Sirou, pourquoi voter pour vous et vos idées voyages à 55 millions d'euros?
Je sais bien que ma chronique est hors sol, mais c'est vrai que si on revient un siècle en arrière, les premiers vols en avion semblaient réservés à l'époque à quelques privilégiés. Alors je me suis dit, prenons un siècle d'avance et puis rêvons un petit peu.
Il a toujours un siècle d'avance. Alain Sirou, Axel de Tarlé, pourquoi voter pour vous aujourd'hui votre chronique des patrons qui mettent la barre à gauche?
Parce que je vous ai parlé de Keynes, je vous ai parlé de la relance économique et je me suis dit que tout cela entrait en résonance avec votre merveilleux roman, Olivia, qui parlait de ces valeureux Espagnols venus au cours du siècle précédent avec leur force de bras et qui ont participé, sans compter leurs heures, à la relance et à l'épanouissement
je
de cette économie française.
Je ne vois pas le rapport. Ah oui, d'accord.
Voilà. Mais c'était bien tenté quand même.
Mais c'était joli, hein, Axel. C'est
un bravo. Bravo. De balle,
mais on adore. On prend.
Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Eh bien, ils ont voté pour la jeune femme que l'on retrouve sur France 5 dans le magazine de la santé, Farah Kestri.
Et oui, les gens craignent les tics comme moi. Oui. Point pour Farah. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui. Ça serait trop facile de donner à Farah, vu que c'est la chronique qui personnellement m'intéresse le plus, vu que je suis complètement psychopathe. Mais non, je vais la donner, je pense, à Anis Mbida, parce que appris quelque chose. Je ne pensais pas que les fabricants d'armes pouvaient se soucier, ou en tout cas faire semblant, de se soucier de l'environnement. Mais vous le savez, ici, c'est à l'invité que revient la lourde tâche de trancher. Olivia Ruiz, le moment fatidique a sonné. Pour qui allez-vous voter, sachant que vous distribuez 3 points pour une seule et même personne?
J'avais voté pour Anissé la dernière fois, hein, me semble, non?
Oui.
Non.
Un peu d'originalité. Non.
Le délicieux petit café qui est arrivé jusqu'à moi ce matin m'a été apporté par le charmant Alex de Tarlé.
Voilà.
C'est grâce à ma chronique, mais grâce à ma qualité de domestique.
Non, mais elles sont toutes bien, vos chroniques.
Grâce au fait que vous avez un peu déboutonné votre chemise, plus que d'habitude aussi aujourd'hui.
J'essaye de vous aussi, vous avez remarqué.
Je peux dire que c'est uniquement pour vous. On l'a jamais vu aussi déboutonné que ça. Alors attendez,
c'est Axel qui
gagne. C'est Axel, tu vas voir, les sauvages. Ça faisait 6 mois au moins que j'avais la meilleure chronique.
Ça faisait longtemps.
Non, mais c'était super.
Grâce au café.
Tout ça grâce.
Non, la chronique aussi.
Mesdames et messieurs, Axel de Tarlé remporte la 185e journée de l'équipée sauvage. On remercie chaudement Olivia Ruiz et on vous recommande très chaudement, encore plus chaudement, son premier roman, La commode au tiroir de couleurs, chez Lattès. Vraiment un coup de cœur solide.
Oui, exactement.
Eva. Et je remercie mes équipiers du jour, évidemment, Eva Roque, Farah Kestri, Alain Sirou, Anis Mbida, Axel de Tarlé et Olivier Pouls. Romain Causeur et Christophe Pierrot en régie. L'équipe est sauvage revient demain 16h.